CIRIXM 172 avec Stéphane Bruyère.
Tout sur l'immobilier et le domaine hypothécaire.
Immobilier et hypothèque.
23 minutes passé l'heure, vous êtes toujours sur les ondes d'XM en compagnie de Chantal Lapointe et de Yves Carignan. Mon nom est Stéphane Bruyère et on suit encore notre segment. Mon Dieu, déco, tendance.
Ah, oui.
Tu voulais parler des baby boomers.
De tout. Ben, écoute, il y a eu, dans le cadre du 49e congrès de la PCHQ qui a eu lieu à la mi-septembre, à chaque fois qu'il y a un congrès de cette association, c'est l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec. Et c'est le regroupement des entrepreneurs membres de cette association-là. Et il y a des congrès, il y a un congrès, c'est-à-dire il y a beaucoup de présentations, de conférences. Et à chaque année, il y a un sondage qui touche la construction résidentielle. Et c'est un des éléments importants qui est sorti cette année, c'est une étude au niveau des baby boomers. Donc, ce qu'on appelle en anglais les empty nesters, c'est le nid qui se vide. Les enfants quittent la maison, les propriétaires de la maison...
Techniquement, devraient quitter la maison?
Techniquement, oui. Ils sont en âge de quitter, mettons. Mais une fois qu'ils sont sortis de la dite maison...
Ah, ils peuvent revenir avec un divorce ou une séparation.
Aussi. Mais les propriétaires, on a l'impression des fois que les propriétaires de ces maisons-là... Bon, écoute, la maison est grande, on a eu 3 enfants, ils ont quitté la maison.
Oui.
On vend tout ça, puis on s'en va dans une tour.
65 ans, on est à la retraite, on vend ça, on s'en va en ci, en ça.
C'est un mythe qui a été déboulonné avec le dernier sondage, et qui disait, en gros, que lors de ce congrès-là, les gens, en très grande majorité, pour les 14 prochaines années, le groupe de 45 à 65 ans disent qu'ils veulent conserver leur maison et l'adapter à leurs nouveaux besoins. Alors, ce n'est pas vrai que ceux qui ont 40, mettons qu'on a une médiane de 55 ans présentement aujourd'hui, ces gens-là, dans un ordre de 70 % veulent conserver leur maison.
Je vais te donner une statistique que j'ai sortie la semaine dernière.
Go.
Les achats aux États-Unis actuellement... Il y a à peu près un cinquième des ventes aux États-Unis qui se font par des étrangers.
Oui.
Et 25 % de ces acheteurs-là sont des Canadiens.
Oui.
Donc, quand les gens achètent en Floride. Et le segment là, numéro un, là, c'est ça, les 50 à 55 ans. Donc, les maisons sont finies de payer, etc. On va réhypothéquer parce que je le vois en tant que courtier en prêt hypothécaire. Ils vont venir demander un prêt hypothécaire de 50 000 $, 80 000 $, 100 000 $, puis... vont acquérir cette résidence-là.
Parce qu'au niveau de l'analyse du marché, on avait une tendance à croire, bon, une fois que les baby boomers vont quitter, ils vont s'en aller, ils disent que 75 % ou 72, le chiffre, ne veulent rien savoir d'aller vivre dans une tour de plus que 10.
C'est un segment qui est important en matière d'habitation parce que c'est eux qui sont les plus nombreux. Donc,
Il y en a 72 % ne veulent absolument rien savoir d'aller vivre dans une tour de plus de 10 étages. Ça dit quelque chose. Et la majorité veulent conserver leur maison. Alors, au lieu de dire, bon, mais il va y avoir des maisons à vendre et ces gens-là vont aller d'un tour, non, c'est les occupants actuels qui vont conserver leur maison. Peut-être la vendre sans bâtir une plus petite, mais ils veulent rester dans leur maison et veulent adapter cette maison-là. Donc, au niveau rénovation, ça va être un marché qui va continuer d'être en très forte croissance.
Oh oui.
Au niveau construction neuve aussi, il peut avoir un impact parce que, de ce qu'on voit, je regarde en Colombie-Britannique présentement, ça coûte très cher se construire. Donc, ce n'est pas les premiers acheteurs qui sont la clientèle chez nous. Ce sont les gens qui s'en viennent à la retraite. Et c'est des budgets de 400 000, 500 000 pour une maison qui n'est pas nécessairement grande, mais qui a des espaces pensés pour ces gens-là, des corridors élargis au cas où qu'un des deux devienne en chaise roulante, ils n'ont pas besoin de rénover. Les salles de bain sont pensées en fonction de ça. Alors, on touche un segment de marché qui fait que les occupants veulent conserver leur maison contrairement à la croyance passée.
Moi, ce que je pense de ça, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, ils ne veulent pas quitter leur résidence. Ils vont aller voir leurs enfants qui sont partis. Ils vont les suivre. Alors, on va parler de maison bigénération.
OK. Lorsqu'on est capable de pouvoir le faire, mais on a une fausse croyance de penser que les gens... vont céder cette propriété-là qu'ils ont achetée lorsqu'il y a eu l'explosion des banlieues, donc à Sainte-Foy, Beauport, Charlebourg, aussi à Québec, la même affaire, le même phénomène peut être dans n'importe quelle ville. Donc, on a eu l'explosion du baby boomer, puis on est allé s'établir dans cette banlieue qui est aujourd'hui quasiment centrale, veut dire... aujourd'hui, quelqu'un qui reste à Sainte-Foy, il est quasiment au centre-ville, le nouveau centre-ville de Québec.
La banlieue s'étire, oui.
C'est ça, là, donc... les propriétés sont bien placées, Sauf que, en tout cas, je trouve qu'on néglige beaucoup parce que tant aussi longtemps que les gens vont être en santé, il y avait une étude de la SCHL qui avait été faite aussi là-dessus sur les bébés boomers. On appelait ça le phénomène du vieillissement chez soi. Donc, tant aussi longtemps qu'on a la santé pour pouvoir s'occuper de l'aménagement, le terrain tondre, l'entretien de la propriété, on va la conserver. Et si jamais on doit vendre, ils vont acquérir pas un condo dans le même secteur, mais bien ils vont peut-être même retourner à loyer dans la paroisse où est-ce qu'ils ont grandi. Ils ne veulent pas changer de caisse populaire, ni de coiffeur, ni de pharmacie.
Non, c'est une notion de sécurité, c'est ça. Puis tu regardes, elle parlait de bigénération.
Oui.
Je suis totalement d'accord avec elle. Ils peuvent faire un move comme ça parce que les familles d'aujourd'hui, on le sait, les grands-parents sont souvent appelés à venir nous aider pour à s'occuper des enfants. Le problème, on en a déjà parlé en onde ici, c'est que beaucoup de municipalités refusent les projets de bigénération parce qu'ils voient ça comme du multilogement et ils n'ont pas adapté les lois municipales en fonction de la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est très dommage parce que des projets comme ceux-là, on n'a pas... C'est une demande qui est très marginale chez nous. J'ai été surpris de ça parce qu'on a fait l'enquête. Et
D'après moi, là, c'est un projet qui est marginal parce que les gens sont inaptes à pouvoir réaliser leurs rêves. Parce que moi, j'ai beaucoup, ben beaucoup. Juste 10, 15 % je trouve que j'ai quand même beaucoup de gens qui veulent le faire, mais qui sont inaptes à le faire, soit parce que, un, la municipalité ne le permet pas, deux, ils ne trouvent pas le terrain pour pouvoir le réaliser.
Ben, mais parfois, les gens, c'est ça, ils vont faire un achat de maison à un endroit où il y en a déjà, soit des jumelés, puis c'est un secteur.
Ici, on parle ici à Québec actuellement. Là,
oui, sur le chemin Saint-Louis, là, il y en a des jumelés. Il y en a beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons à ces endroits-là. Puis ils vont faire des maisons bigénération. Je suis en train de faire un projet comme ça.
OK. Parce que le zonage le permet.
Au niveau de la construction neuve, à Saint-Jean-Chrysostone, si vous voulez, Bréquéville, actuellement, nous à Québec, là, le nid à la construction d'une bigénération, c'est ça arrive sud de Québec. Ça arrive nord, là, bien des défis. Essayez de trouver du terrain, ou sinon vous êtes rendu bien loin, puis encore là.
Moi, je veux dire, Stéphane, c'est ça, je trouve ça dommage, parce qu'ils partent beaucoup de projets de condos. Là, ils sont partis sur ça partout ici.
Tantôt,
là.
Tu nous disais, en dehors des ondes, qu'est-ce que vous pensez des lofts? Regarde,
on va en parler après.
On va rester sur la bigénération.
Je pense que les municipalités devraient ouvrir vraiment des portes à ce sujet-là, parce que les maisons bigénération, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en font ici à Québec? J'aurais la question à poser.
Moi, je crois pas, je ne pense pas, parce que je ne vois pas passer de projet bigénération.
Moi, je vais
nous.
Te répondre, le courtier en prêt hypothécaire, beaucoup de gens qui veulent le réaliser, mais sont inaptes à pouvoir le faire.
Aux lois.
Oui.
Fait que ça sera à développer.
Bien, je pense que
puis
c'est
au niveau des terrains aussi, parce que si tu veux avoir un secteur, c'est ça, je vais dire qu'il faut un esprit, je dirais pas un peu plus léger, mais un peu plus ouvert, parce que je pense que le besoin est là. C'est-à-dire, on a deux adultes qui travaillent comme des forcenés ou presque, puis là, en plus de ça, tu sais, t'as deux enfants, bien... Moi, j'ai rien contre que ma belle-mère vienne vivre chez nous. Tu sais, moi, au contraire, je serais pour. Mais est-ce que ma municipalité me le permet? Bon, j'ai deux personnes de plus, je reste à Lac-Beauport, il faut que ça soit la fosse septique, etc., qu'on change à cause du nombre d'habitants. Regarde, puis encore là, est-ce que j'ai le droit de le faire? Il y a vraiment des défis importants là, en cette demande-là. Et c'est pour ça que toi, Yves, en tant que dessin de Romain, en tant que gars qui fait des plans, tu n'en vois pas.
Bien, on n'en voit pas, puis je pense que là, c'est dans la balle des fédérations de personnes âgées et des fédérations de... La balle est dans le camp de ces gens-là pour pouvoir faire un lobbying auprès du gouvernement. Parce que ça...
Le besoin est là, je suis convaincu.
Premièrement, ils ont le pouvoir. Okay? Les baby boomers ont toujours eu le pouvoir. Puis ce qui est drôle avec ça, c'est que c'est une génération qui ont pensé bien faire en plaçant leurs parents dans des centres d'hébergement et des centres pour personnes âgées un peu plus. Puis eux autres, ils veulent rien savoir de ça. Puis je les comprends parce qu'à un moment donné, la première expérience a été faite, ça n'a pas été concluant. Ils se disent, moi, je vais vieillir chez nous, puis je vais m'arranger avec mes choses, je vais m'assurer d'avoir quelqu'un et d'avoir des installations qui vont me permettre de durer le plus longtemps possible chez nous. Mais les municipalités, bigénération, je suis entièrement d'accord avec vous, il doit se passer quelque chose, mais c'est à cette génération-là qui ont le pouvoir au niveau démographique et ont le pouvoir financier aussi de dire, regarde, faites quelque chose.
Chantal, c'est quoi le projet sur lequel tu es en train de travailler?
C'est dans le fond, c'est une maison qui avait de la difficulté à se vendre et le monsieur a acheté la maison, puis lui, il a vu le potentiel de faire une maison bigénération. Il a eu l'idée d'aller s'informer à la ville Et évidemment, parce que la maison était très, très grande, elle avait un petit pavillon connecté à même. Alors, c'est possible par rapport que dans ce secteur-là, il y a déjà des produits similaires et il y a déjà des jumelés à cet endroit-là. Fait que je pense que cette maison-là va devenir très efficace. Puis moi, je pense au côté humain aussi pour les parents.
Juste,
je
vais lever un flag, OK?
Oui.
Ça arrive quasiment une fois par semaine que des gens me posent la question. Si jamais vous voulez acquérir ce genre de propriété-là, c'est un minimum de 5 % de mise de fonds qu'il faut avoir parce que les gens se demandent, bon, si j'ai un loyer de mes parents, je ne peux pas le considérer dans les revenus. Donc, vos revenus, en tant qu'acheteur, doivent s'autosuffire, OK? Je ne peux pas considérer un loyer parce que c'est une bigénération. Il faut accepter qu'on va vivre en commun. Donc, on ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire, bon, mais je vais transformer ça puis je vais donner ça à je vais mettre un locataire dedans. Donc, quand je fais la qualification, puis c'est des projets importants parce que c'est souvent du 300, du 400, du 450 000, parce que c'est en réalité presque deux propriétés.
Ouais, ouais.
J'ai donc, certains défis.
Au niveau hypothécaire, c'est considéré comme une propriété,
comme là,
mais au niveau de la loi, c'est considéré comme du multilogement. C'est là qu'il y a une dualité qui est...
J'ai un client actuellement, lui, il a gagné la maison Kingsman il y a plusieurs années. Il est installé dans le Minil, puis il décide de vouloir... Lui, c'est le contraire. Il a la maison, mais il a décidé de venir ajouter sa petite famille, ses enfants, son enfant avec
les petits-enfants.
Modifié. C'est sûr qu'il y avait la propriété et l'espace nécessaire. La Ville de Québec a accepté, tant mieux. Mais c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là.
Non.
Mais moi, je pense que là, on a levé un questionnement, puis je pense qu'on va avoir des réponses. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui peuvent appeler pour dire qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils sont pour ça aussi, là, la bigénération. Mais là, il y a les lofts aussi que je voulais parler.
Oui.
Mais là, on passe d'un extrême à un autre. On parle de grands espaces vivants communs, puis là, on arrive au loft.
Et oui, au loft. Les lofts, moi, je pense que c'est pour les gens d'affaires, les gens qui viennent ici à Québec 2-3 jours par semaine. Les gens, au lieu d'aller dans les hôtels, on voit ça de plus en plus, vont louer dans le Vieux-Québec, dans le coin de Montcalm. Puis c'est intéressant de voir que les lofts, c'est très, très prisé. Là. C'est ça que je voulais parler.
Il y a une grosse demande là-dessus?
Il y a une forte demande au niveau des gens qui sont en affaires et qui viennent à Québec.
Oui.
Au lieu d'aller dans les hôtels, ils vont préférer finalement à 3-4 jours par semaine avoir un lieu de loft où ils ont tout inclus, là, l'Internet, tout est là à même.
On parle de quelle superficie?
Écoute, actuellement, là, ce que je vois...
Un 1200 pieds carrés
environ. Encore là, il y a des fois, là, c'est bien plus petit que ça encore. Là. Les jeunes ne veulent pas être alloyés. Parce que, quand on commence à travailler, on est sorti de l'école, ou encore là, des fois, on travaille, puis on va à l'école en même temps. Payer là, un 1000 ou un 1200 de loyer par mois, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais être propriétaire. Donc, je vais aller me chercher mon petit loyer à moi, donc mon loft. On commence par là. Il y a un deuxième segment qui se dessine lentement, mais sûrement. C'est le segment des divorcés puis des séparés. Donc, si on n'a pas la garde des enfants, naturellement, parce que là, au pied carré, on se retrouve un peu plus petit et c'est plus serré. La demande est là.
C'est là qu'on vient à nos Chinois. Tu sais, que tu te cordes de 5-6 dans la même pièce à 1000 pieds carrés. Là.
Les prix des terrains ont continué à augmenter. Les prix ne baissent pas vraiment. Donc, les gens veulent demeurer, veulent être propriétaires. Puis c'est autant on a pu, je vais dire, dénigrer ou presque le condo depuis les 15 dernières années. À ce que je sache, le marché du condo actuellement n'est pas planté.
Non.
Puis je pense que celui du loft va en être un du futur. On regarde même à Montréal, il y a eu des taux qui se sont vendus.
Ah,
99
oui. Ah,
unités
oui.
Qui se sont vendues en moins de, je pense, quoi, une ou deux journées.
Les
là.
Gens attendaient dehors 24 heures avant que le bureau de vente ouvre pour aller réserver leur condo, qui est bien positionné au centre-ville à des prix intéressants. Donc, il y a un besoin, il y a une demande dans les grands espaces urbains. Ça, c'est certain. Le condo a sa place. C'est juste, je crois que le marché l'a vu grand et d'après moi, ça peut peut-être s'essouffler par la croyance qu'on parlait tantôt des baby boomers qui veulent rester chez eux. Mais si on revient au loft, c'est ça, on parle d'un 1000 pieds carrés peut-être.
1000 à 1200 pieds carrés.
D'accord.
Puis c'est intéressant pour les gens aussi qui sont très, très sportifs. On va retrouver ça énormément dans les lofts parce que les gens sont toujours en vélo, sont toujours à l'extérieur. Ils aiment rester en ville.
Les kayaks.
Tout se fait à pied.
Pas des kayaks.
Souvent, ces gens-là, ils n'ont pas de voiture.
Non, mais de quoi? On arrive en fin de semaine. Donc, c'est quoi ces kayaks-là?
Je ne sais pas.
Les gens, là, ils ont compris quelque chose. C'est que oui, je vais avoir mon pied à terre, donc ma propriété. Je suis propriétaire, que ce soit un condo ou un loft. La fin de semaine, là, c'est ce qu'il y a sur le top du char est bien plus gros que
ce qu'il y a dans le loft.
Dans le loft, là, je veux dire, tu sais.
OK. kayak, vélo, randonnée pédestre. Les gens ont de moins en moins de voitures, là, toutes dans le vieux, là, avec tout ce qu'on a en plus à Québec, là, tous les spectacles. Ça devient intéressant d'avoir un loft à Québec. Là. C'est
on n'en voit pas de projet actuellement abordable. Ce qu'on voit, c'est dans le quartier Montcalm, des choses, je ne dirais pas, c'est pas donné non plus, mais des projets comme on a pu avoir à Montréal, là, je dirais pas Beaubon, pas cher, là, centre-ville. Là.
Plus abordable que qu'est-ce qui s'était fait. Mais ça se vend combien, un loft comme ça? Je suis curieux. 1000 pieds carrés dans le Vieux-Québec? Là.
Et je peux pas te dire de prix fixe.
D'accord. Hein. Okay.
Ça peut être de Londres, peut-être.
Je serais curieux.
C'était un agent immobilier qui était à l'écoute. Non, sincèrement,
je ne sais pas non plus.
Je dirais pas que ça n'a pas de prix, là, mais...
Non, mais c'est parce que je vois
que... Je connais au niveau location. Au niveau location, ça peut aller jusqu'à 2000 $ par mois.
Ah, d'accord. Écoute, par mois. C'est ça. Là. Fait que tu joues dans du...
Donc, fait que c'est entre 300 et 500 000 facile.
T'as une clientèle d'affaires qui veut avoir son pied à terre à Québec. Mais le pied à terre, c'est parce qu'il loue, là. C'est
même la compagnie.
Oui, OK.
Fait qu'au lieu d'aller dans les hôtels, je me trompe pas, tu as même certains ministères qui ont ce genre de propriété là. Donc, d'accord. Au lieu d'aller constamment d'envoyer les gens dans les hôtels, ben ils ont des propriétés. Fait qu'on...
Voilà. OK.
Oui. On est à l'automne. Est-ce qu'il y a des tendances automnales? La pierre, le bois naturel, c'est quoi?
Ce sont des éléments qui reviennent cet automne. Écoutez, j'aime emmener ici ce que j'entends à travers le bureau puis le réseau chez nous. Je suis content que Chantal soit là parce que chez Dessin de Romande, on essaie de toujours créer en fonction de la demande. Et puis, ce que l'on voit de plus en plus, si on parle de tendance automnale, c'est des projets sur lesquels on travaille présentement, bien, effectivement, la pierre est toujours omniprésente, le bois naturel. Donc, on va penser tout de suite, pierre et bois naturel, les maisons qui se construisent dans l'Ouest canadien, un look un peu plus chalet, ça touche un petit peu plus la maison secondaire, mais il y en a que c'est leur maison principale, dépendamment des régions que vous vivez. C'est sûr qu'au centre-ville de Montréal, tu ne verras pas ça.
Puis la pierre, c'est quoi qu'on fait, donc, Chantal, avec? C'est beau, un mur en pierre, hein, ou une maison en pierre, ou un devant en pierre.
À l'intérieur,
ou combiné aussi, tu me mentionnais à un moment donné combiné.
Oui, combiné les deux. Des fois, au lieu de mettre tout un mur en pierre au complet, on peut le mélanger avec du bois ou le résorber sur une petite surface. Pas tout le temps mettre ça trop plein, trop lourd. Puis les gens, des fois aussi, ne montez pas vos murs jusqu'à, mettons exemple, si vous avez une pièce de 9 pieds, montez pas votre mur central pour faire une division, exemple, jusqu'à 9 pieds. Vous pouvez l'arrêter à 8 pieds. Tu sais, des fois, on a un mur qui divise le salon et la salle à manger. Bon, mais moi, j'ai vu ça dans une revue. Il avait monté le mur jusqu'en haut, puis il avait mis la pierre de haut en bas. Il ne faut pas faire ça.
C'est pesant, oui.
Alors, laissez le haut dégagé.
Pourquoi ne pas faire ça?
Bien, parce qu'on vient fermer vraiment les deux pièces, et ça fait un petit peu plus étouffant, parce que la pierre, en étant plus haute, on se sent un petit peu plus écrasé dans la salle à manger. Donc, en mettant
notre
élévation...
Comme si on me regarderait si je suis assis versus quelqu'un qui est debout.
Exactement. Puis si on arrive et on met le mur à 8 pieds dans les airs, bien à ce moment-là, ça fait une ouverture et on voit le plafond du salon. On va voir l'éclairage qu'on a de l'autre côté.
Tu parles de conserver un pied d'ouverture entre les deux.
Un pied d'ouverture entre les deux. Et de chaque côté aussi, de ne pas fermer complètement la pièce. On peut circuler au pourtour, donc ça devient intéressant s'il y a des enfants en bas âge.
Ouais.
C'est très, très le fun.
Puis à l'extérieur, nous, ce qu'on voit, c'est un mélange de ces deux-là. De plus en plus, tu as des mélanges de différents matériaux. Avant, tu as une construction en briques, tu avais tout de la brique, puis ça finit. Là, on commence à avoir un peu plus de mix de matériaux, bois et pierre. Donc, tu as un mur.
Très beau, d'ailleurs.
C'est très, très beau. C'est des...
on parlait tantôt de... J'allais dire Fuji, là, mais c'est pas Fuji, c'est
Feng Shui.
Là.
Feng Shui.
Bon.
Je sais pas si ça touche le Feng Shui.
Ben, je trouve ça très beau. C'est quoi? C'est une maison Kingsman's, laquelle qui est en vente. Là, il y a un tirage. Puis exactement, la pierre est en bas, le bois ressort. Je trouve ça très beau comme combiné. Là.
Ça a une chaleur unique et également avec le côté un petit peu plus zen, on voit les matériaux comme le bloc.
Le stainless, admettons, et le bois.
L'aluminium brossé.
Le chaud, en tout cas, je sais pas.
Jouer avec des volumes aussi, c'est intéressant. Des fois, on peut faire un mur qui est en bois et mettre un carré qui est plus, autrement dit, avancé avec une épaisseur et mettre un autre morceau de bois sur votre mur qui est plus bas. Puis insérer la pierre à travers ça. Mélanger le bois et la pierre, mais d'une façon de jouer avec les volumes. C'est dur à expliquer à la radio.
Ça va bien. Là. Donc, c'est jouer avec les perceptions. Donc, au lieu, par exemple...
Les profondeurs, ça évite d'avoir un look palissade. Là. Tu sais, là, une muraille là, très, très longue. Et c'est ça. Là, on commence à jouer avec un peu plus de volume.
Vous m'avez allumé aujourd'hui. Là, les volumes, c'est une chose. Les coins ronds, admettons, Mm.
Puis tu parles aussi des les blocs architecturaux qui sont utilisés. C'est comme une espèce de bloc d'une grandeur de peut-être, ça peut avoir 12 pouces par un petit peu, peut-être 18, qui était beaucoup utilisé dans le commercial, dans l'industriel, les hôtels. Ça a un chic...
Les alcôves, tu veux dire une insertion dans un mur?
Non, bien, à l'extérieur, je parle. Okay. Un parement mural, okay, qui, oui, est comme ça. On le voit, la tendance présentement, c'est qu'on prend des bungalows qui étaient populaires dans les années 80. Parce que, vu que ça coûte cher de construire, le pied carré, on essaie de le maximiser.
Oui.
On reprend un bungalow qui était populaire et on le transforme avec un look un peu plus zen. En utilisant, au lieu d'utiliser le bon vieux clapboard d'aluminium, on va utiliser du bloc architectural comme ça et emmener l'intérieur aussi qui est repensé. C'est vraiment le fun de voir l'évolution parce que le même pied carré, un peu changé à l'intérieur avec une toiture quatre versants un petit peu plus écrasée, en sortant un peu des éléments, le bloc architectural avec le bois qui donne un look un peu plus zen, le modèle va revivre. On donne une deuxième vie au modèle de maison qu'on a designé.
Quand j'arrive chez Dessin de Roman, êtes-vous capable de me montrer visuellement ça, tout ce que tu viens de m'expliquer? Là,
on est en train de le faire présentement.
Tu me le dis,
je veux le faire.
Puis ça a été le fun parce que tu nous as parlé. J'ose espérer que les gens ont bien compris. Puis, Yves était là avec ses mains, puis il a tout montré au fur et à mesure. C'est pour ça que la question aussi est venue, parce que moi-même, étant un gars qui est visuel, je trouve que si tu arrives avec je dirais pas un avant et après, parce qu'il n'est pas fait l'après. Là. Donc, visuellement, on le montre. Voici vers où on s'en va.
Ça, la manière dont ça va être présenté sur notre site, c'est si tu vas voir un exemple, je donne un chiffre au hasard, je ne sais même pas si c'est celle-là, le modèle numéro 3925, bien, ce qu'on va faire, nous, on va faire une version de ce modèle-là. Quand vous allez sur le site de Dessin de Roman, vous tapez un numéro de plan et que vous voyez des modèles équivalents dans la colonne de droite qui disent 3925 V1, V2, V3, ce sont des versions du modèle original. Donc, les nouveaux modèles qu'on va développer dans les prochains mois, qui vont être un petit peu plus zen, vont avoir cette fonction, vont avoir le feng shui. Je vois la demande bouger, mais je ne bougerai pas moi en attendant. Parce que j'étais curieux de demander à Chantal si elle le sentait elle aussi. Parce que ça revient, cette histoire-là, qui a été un vrai cauchemar pour certains de nos bureaux. Parce que des gens qui demandent ça sont très, très, très renseignés et tiennent mordicus à cette
philosophie. Je pense qu'ils devraient faire affaire avec un spécialiste qui est... C'est que cet univers-là, comme la palette de couleurs. Là.
Mais c'est parce que les spécialistes qui se disent spécialistes ne sont pas toujours spécialistes. Ouais, c'est tu dois en avoir dans ton domaine aussi. Alors, c'est très délicat pour le client et ils sont très, très exigeants. Mais pour répondre à ta question, il va y avoir des équivalents. Le modèle de base est l'équivalent plus 2010. Et je pense qu'on fait 7 ou 8 modèles là, présentement qu'on est en train de transformer de cette façon-là. Et c'est ce qui est demandé par les gens aussi.
Puis moi, j'ai vu aussi des tendances changer au niveau des éclairages extérieurs. Au lieu d'avoir les encastrés au niveau des soffites, y aller dans le fond plus à partir de notre sol. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Yves. Moi, j'ai travaillé
pour... C'est beau.
C'est vraiment beau, puis on peut travailler avec des éclairages de LED. Donc, c'est très économique.
Excuse-moi, j'étais en train de fouiller dans mes dossiers pour être très honnête.
Elle parlait des éclairages vers le sol. Très souvent, je trouve, dans les restos, bon, l'Archibald, pas le nommer, ou peu importe.
Par l'extérieur.
Ça met vraiment... par exemple, tantôt, on disait la pierre en bas, puis par la suite, mettons, du bois. Ça avait vraiment valeur, là, le matériel, la sensation, l'âme n'est pas pareil.
Ce qui est le fun avec l'éclairage...
Un arbre. Arbres, on éclaire nos arbres. Okay? Oui. Tu peux éclairer un arbre par en haut, mais quand tu l'éclaires par en bas, l'ambiance et la dynamique n'est pas pareille.
Sais-tu pourquoi que ça donne cet effet-là? C'est que la lumière, elle est belle lorsque tu ne vois pas la source de cette lumière-là. Je m'explique. La lampe qui est ici, tu vois la lumière qui est là.
Elle est lette aussi.
Elle est très lette. Chantal va pouvoir faire quelque chose dans deux semaines avec ça.
Oui, c'est ça.
J'ai vu des belles lampes hier à 1600 $ chacune. Là, bon. LED, justement, c'est
il
beau.
Il doit avoir du budget dans ce studio.
Ils sont en spécial à 999 dans ce temps-ci. Là. Il y a eu un beau regard.
Mais si tu partais, dois-je dire, une lumière du plancher pour éclairer le mur ou éclairer des cadres, puis que tu ne vois pas la source de la lumière, l'ampoule, tu ne la vois pas, mais tu vois juste le résultat de l'éclairage, c'est ça qui donne une beauté, c'est ça qui donne un côté paisible. Les arbres éclairés par le bas et que tu vois tout le feuillage l'été qui est éclairé, ça donne un effet paisible. Si tu mets le même spot, puis tu le mets dans l'arbre, puis tu éclaires vers le bas, tu vois la lumière, puis elle est un peu aveuglante, ça n'a pas le même effet. Dans la maison, c'est la même chose. Au niveau du design d'intérieur, si tu mets ta lumière et que tu réussis à la cacher un peu, ça va avoir un effet vraiment apaisant.
La
et c'est beaucoup plus beau.
Oui. Oui. Autant comme sur les patios extérieurs.
Oui.
On peut mettre un éclairage qui est dissimulé. Fait que le soir, quand on va manger, sur l'heure du souper, on va mettre une petite chandelle, on va mettre tout ce qu'il faut pour rester le plus longtemps possible. Alors, ça devient intéressant. Ça vient.
Comment tu fais pour dissimuler ta lumière sur un patio?
Aha!
Bien là, on peut avoir... c'est dur à expliquer.
Il semble
à la radio.
Que partout, je vois chez tous mes amis, on les voit toutes, les lumières.
La lumière qui peut être au plafond. J'ai vu des tables, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, des sets de patio, que la lumière est intégrée à l'intérieur de la table. C'est un verre givré qu'il y a sur le dessus.
C'est okay? vrai.
Donc, tu es assis, comme ici en studio, c'est comme si la table...
C'est comme mon cellulaire, lumière. Quand je me couche la nuit, tout est fermé, là, d'un coup, ça éclaire par soi-même. Oui. C'est ça que tu es en train de me dire, là, ou quoi?
Tu peux diminuer l'intensité de la lumière, fait que tu peux avoir une ambiance que tu vois tout, tu vois le visage des gens, mais tu n'as pas un spot qui tombe sur la tête ou accroché au mur. Les fameuses
c'est pas
lumières
une joke,
au mur,
là, c'est vrai, là, ce que
je
te dis,
non,
que
c'est vrai. Oui. J'avais fait un article, il y a des sets de Passo comme ça qui étaient vendus à la Galerie du Meuble à Québec, puis j'avais fait un article dans l'écho de Lac-Beauport. Puis c'est ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que le soir, quand tu reçois les gens, c'est des bancs lumineux, une table lumineuse.
Ouais, mais là, ça va me coûter 4-5 000 piastres de, bon. De cette patio nouveau, encore là, peut-être 10-15 000. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, oui, les chandelles, j'étais un gars à chandelles, là, mais y a-t-il une manière de dissimuler?
Mais on peut mettre des encastrés dans le plancher, là, au pourtour.
Mais je parle au niveau du patio?
Oui,
patio extérieur.
C'est ça, on peut les mettre au sol, les encastrés. Au pourtour.
Encore plus simple, Stéphane, tu prends la fameuse lumière. Mettons que tu as un patio de 10 par 10 à l'extérieur, tu as la porte patio. De chaque côté, tu as toujours une lumière.
Elles sont toutes là.
Bon, là, tu peux prendre une lumière puis avoir une espèce de cylindre dans lequel la lumière est dedans et ça l'éclaire vers le haut et vers le bas. Mais la dite lumière, tu ne la vois pas.
Ben, trop vrai, le restaurant là, qui vient d'ouvrir à Lac-Beauport,
l'Osaya,
ben c'est vrai.
Ça fait feng shui, ça, hein?
Je ne sais pas si c'est feng shui. Steph, va falloir que tu nous vérifies ça dans
mais
tes
ça
recherches.
Ça mène à la nature, c'est vrai ce qu'il vient de dire, lui-là. Là. Pourquoi l'accessoiriste en toi n'a pas parlé? Mais c'est vrai, ça, ce genre de lumière-là.
Mais ben non, mais je le laisse aller. Il était parti. Il fait bien ça.
C'était vrai que c'est une manière de parce que qui ne va pas chez son voisin, ben chez ses amis, on les voit toutes, les lumières, là. Mais là, c'est le fun, ça attire les mouches, puis tout le kit, puis c'est...
Sur le devant de la maison, c'est pareil. Oui. Alors, on va les dissimuler dans le sol. On ne les mettra plus dans les soffites. Alors, les maisons, là, quand tu arrives à Noël, là, puis qu'il y a à peu près 15 lumières au pourtour, en plus des guirlandes de Noël, ça finit plus.
Et au niveau de l'hiver, qu'est-ce qui arrive l'hiver? Est-ce que à cause de l'énergie, elle se dégage pareil ou on doit...
Neige fond, c'est merveilleux.
Ça doit être beau à part de ça, justement. Tu vois la lumière sortir de la neige.
C'est l'erreur que j'ai faite. Moi, j'avais des éclairages, des lumières dans le soffit. C'est pas les guirlandes de glaçons lumineuses. Là. C'est vraiment dans le soffit pour éclairer le pourtour de la maison extérieure. Mais si c'était à refaire, je partirais l'éclairage du sol et je projetterais vers la maison. Donc, tu ne verrais pas la lumière, tu verrais juste le résultat de l'ampoule.
Et tu mets ta pierre et ton matériau extérieur en évidence aussi en faisant ça.
Ça donne
on prend sur la Grande Allée, il y a plusieurs restaurants aussi qui ont éclairé leurs arbres centenaires.
C'est vrai.
C'est beau.
Tu projettes, c'est vraiment projeter la lumière sur la maison sans voir la source.
Même chose aussi les restos, tu regardes, on regarde la Grande Allée, là, on voit les la brique est belle, on met quelque chose de beau. Hein?
Puis même la ville aussi est en train de tout aménager différemment. Là,
je crois même que l'éclairage. Le Parlement est éclairé de cette façon-là aussi. Ils partent du sol puis ils l'éclairent. L'hôtel dans le Vieux-Québec, le Saint-Antoine, dans les corridors, j'y suis allé, ça fait quelques mois, l'éclairage est un peu fait comme ça. Tu ne vois aucune lumière dans le corridor, mais ils partent du plancher et c'est souvent
c'est des
fois...
C'est des films de LED.
Non, je te dirais, c'est comme intégré dans le plancher et c'est comme une lumière qui est une vitre qui est givrée, la lumière est en dessous.
Comme si je m'en irais, je prendrais l'avion puis que là, les lumières de l'avion à l'intérieur s'éteindraient.
Oui,
donc au sol,
c'est en plein
on verrait notre corridor.
Tu marches, c'est éclairé, mais tu as l'impression que... Tu ne vois pas la lumière. Tu ne peux pas identifier d'où est-ce.
C'est
vraiment bien, bien fait. Et à la maison, on peut reproduire ça facilement. Juste sur les lumières, on parlait du patio, l'importance de le positionner, l'importance de regarder la grandeur du patio, mais l'éclairage sur le mur également, là, il est très important et ça ne coûte pas plus cher de bien le faire.
OK, on va prendre un petit break et on vous revient.
Pour nous joindre en studio,
1 8 6